Alors, j'ai intitulé mon message ce matin, l'exhortation pour ce matin, Incrédulité quand tu nous tiens. Incrédulité quand tu nous tiens. Marc, chapitre 6, je lis à partir du verset 1er. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposait les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Alors, il faut bien avouer que l'incrédulité est un mal qui touche notre société. Mais la question que je me suis posée en faisant cette prédication, cette exhortation ce matin, est-ce que l'incrédulité peut toucher le cœur d'un chrétien? Voilà un peu la question qui est, mais revenu durant toute la semaine. Est-ce que l'incrédulité peut toucher le cœur d'un chrétien? Je voudrais démarrer avec une petite histoire ce matin. Cette histoire s'est passée en Amérique du Nord, du temps de l'esclavage. Un maître d'une grande propriété, tout à fait incrédule, possédait un esclave chrétien. Il ne cessait pas de tourner en dérision sa foi du pauvre esclave. Chaque jour, il renouvelait ses plaisanteries. Et il se plaisait surtout à lui poser des questions embarrassantes. « Alors Sam, tu crois que tu iras au ciel ?»« Oui, maître. » »« Alors, tu es donc un élu ?»« Oui, maître. » Et le maître continua, « Et moi, est-ce que je serai un élu ?» L'humble esclave pria un moment dans son cœur, et le Seigneur lui inspira cette réponse. « Ô maître, je ne pense pas qu'on puisse élire quelqu'un qui n'est pas candidat. » Je répète, « Ô maître, je ne pense pas qu'on puisse élire quelqu'un qui n'est pas candidat. » Stupéfait de telles paroles, il se trouva rien à répondre et le maître tourna brusquement le dos et s'en alla. Il est évident, et je voudrais réaffirmer ici ce matin, il est évident que personne n'ira au ciel s'il n'est élu par le Seigneur. S'il n'est pas candidat, personne n'ira au ciel. Personne n'ira au ciel s'il ne s'est pas repenti de ses péchés. Personne n'ira au ciel s'il n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Et c'était le cas pour ces compatriotes, là, ces personnes qui refusaient de croire au Seigneur Jésus-Christ et qui ne voulaient pas régler le problème de leur vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Le thème du chapitre 6, c'est l'incrédulité. Alors, vous allez entendre durant deux messages l'incrédulité. Tout d'abord, nous allons voir l'incrédulité des compatriotes de Jésus, c'est-à-dire ceux qui habitaient à côté de Jésus, ses voisins, ceux qui le connaissaient, puisqu'apparemment, certains le connaissaient. La semaine prochaine, nous verrons l'incrédulité de ses ennemis, c'est-à-dire ceux qui étaient vraiment opposés au Seigneur Jésus-Christ. Et nous verrons aussi malheureusement l'incrédulité de ses disciples, parce que ses disciples aussi ont manifesté vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ de l'incrédulité. Alors tout un programme, n'est-ce pas, l'incrédulité? Vous allez dire, non, j'ai le Saint-Esprit, je ne peux pas être incrédule. Je ne peux pas être quelqu'un qui ait du mépris vis-à-vis de Dieu. Je ne peux pas avoir ce mépris vis-à-vis de mon Sauveur. Ce n'est pas possible. Je voudrais vous montrer un verset dans la Bible. Ce verset parle de frères. C'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 12, qui dit ceci. Prenez garde, frères. Donc, vous venez d'entendre frères. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Je répète ce verset. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Est-ce que vous pensez maintenant qu'on peut se détourner de Dieu? Je pense que vivre dans un monde pécheur, vivre dans un monde où tout va mal, vivre comme tout le monde, peut nous faire tomber dans le péché et dans l'incrédulité. Et les gens que le Seigneur est en train de visiter à l'époque, c'était des gens qui avaient connu Jésus proche, c'est-à-dire des gens de Nazareth, des gens qui avaient vu Jésus travailler pendant 30 années avec lui, c'est-à-dire le simple charpentier qu'il était, le simple menuisier qu'il était de l'époque. Eh bien, ces personnes qui vont venir le voir maintenant vont mépriser le Seigneur Jésus-Christ. Mais rien de bon peut venir de Nazareth. Rien de bon peut venir d'un charpentier. Nous avons les frères et les sœurs ici en présence de nous, mais où c'est qu'ils ont trouvé leur sagesse? Quelle école spirituelle ont-ils fait? Quelle école spirituelle a-t-il fait pour avoir cette sagesse? Comment c'est possible que Jésus fasse des miracles? Donnez-moi la méthode, donnez-moi la solution, afin que je puisse faire les mêmes choses que le Seigneur Jésus-Christ. S'il a fait une école spécialisée, je veux y aller. Mais ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? Le Seigneur était venu humblement, en catimini, sans rien dire forcément d'annoncer ça publiquement à tout le monde. Le peuple d'Israël était au courant de sa venue, mais ils n'ont pas voulu croire à un moment donné. Et leur cœur est devenu incrédule. L'incrédulité est quelque chose que Dieu prend au sérieux. Et nous ferions bien de faire attention quand on passe parfois dans des moments difficiles et qu'on méprise la grandeur de Dieu, sa bonté, sa miséricorde, parce que Dieu peut agir vraiment grandement vis-à-vis de notre vie parfois. Alors on va regarder, si vous voulez, ces six versets, l'incrédulité de ses compatriotes. Vous venez de le voir, de le lire avec moi. Jésus est retourné dans sa patrie. Les disciples l'ont suivi, premier verset, et il est allé reprêcher dans la synagogue, là aussi qu'il est allé premièrement. Alors cette histoire s'est passée un an auparavant. L'évangile de Luc nous en parle. Allons dans l'évangile de Luc, et je voudrais vous montrer ce qui s'est passé un an auparavant. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 4, l'évangile de Luc, chapitre 4, verset d'abord 16. Il se rendit à Nazareth, où il y avait été élevé, et selon sa coutume, il rentra dans la synagogue le jour du sabbat. Verset 28 du même chapitre. ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Je vous avoue bien franchement que si vous auriez arrêté une chose pareille, à mon avis, vous ne seriez pas retourné une deuxième fois dans cet endroit. Et le Seigneur Jésus-Christ, je dirais, vient de donner, je dirais, une deuxième chance. J'aime pas toujours employer cette expression, le mot chance, je pense que c'est pas un esprit qu'un chrétien devrait avoir, mais en attendant, le Seigneur a donné une deuxième possibilité à ces hommes et ces femmes d'entendre parler de Jésus. Le Seigneur n'agit pas toujours comme cela, avec tout le monde. Le Seigneur n'agit pas comme cela avec tout le monde. En tout cas, la réputation de notre Seigneur Jésus-Christ est devenue tellement importante que quand il voit une synagogue, eh bien, il rentre pour enseigner. Et le Seigneur a profité de cette occasion, de cette visite, pour enseigner ces personnes qui avaient besoin d'être enseignées. Alors apparemment, ils refusent, ils s'interrogent, ils se posent certaines questions, ils sont étonnés de la visite d'abord de cet homme, et en même temps, ils se posent toutes sortes de questions, mais des questions avec mépris, et vous allez le voir un petit peu plus tard. Ils méprisaient ses œuvres, sa puissance et sa sagesse merveilleuse, qui était là pour enseigner, pour diriger ce peuple qui avait besoin de voir ce que le Seigneur était en train de faire. Alors quel était le problème, leur problème? Pourquoi étaient-ils incapables de croire et de reconnaître ce que le Seigneur était en train de faire? Je pense que réellement, ils n'avaient pas réellement connu le Seigneur Jésus-Christ, malgré le fait qu'ils l'ont vu pendant 30 années de leur vie. On est dans une société qui vit beaucoup dans des cages à poules. Alors, j'explique ce que c'est une cage à poules. Vous savez, ces grands immeubles que nous avons dans nos villes parfois, et que parfois, on est voisin de 5 ou 6 ou 7 personnes. Et je me mets souvent à réfléchir en disant, est-ce que entre voisins, on se connaît? Et ma belle-mère, qui a vécu pendant quelque temps dans une cage à poules, elle m'a dit un jour, tu sais, on ne se voit pas très souvent, je connais juste un peu la voisine, je sais qu'elle est une infirmière, donc je peux taper à la porte si j'ai besoin d'elle. Mais le voisin qui était juste après, elle ne le connaissait pas. Et les autres voisins qui étaient sur le même palier, elle ne les connaissait pas forcément. Et je me dis, mais c'est un peu cela, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on a beau connaître quelqu'un, sans forcément le connaître réellement. Et Jésus, pourtant, a vécu avec eux durant un certain temps. Et cette nation ne le connaissait pas réellement. Il le méprisait plus que ce qu'il respectait, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, un vieux proverbe français dit « La familiarité engendre le mépris ». Connaissez ce proverbe? La familiarité engendre le mépris. Je suis allé un petit peu sur Internet et j'ai tapé familiarité. Et je suis tombé sur un vieux grec qui a vécu au 17e siècle. Et ce vieux grec s'appelait Ésope. Et ce monsieur, de son époque, faisait souvent des fables, des écrits, qui illustre bien la familiarité. Et il raconte son histoire, ce vieux grec. Il raconte l'histoire d'un renard qui n'avait jamais vu un lion. Lorsque pour la première fois il rencontra le roi des animaux, il fut presque dans la peur. Lors de sa deuxième rencontre, le renard ne fut plus aussi effrayé. Et à la troisième rencontre, il alla vers le lion et bavarda avec lui. Et voici sa conclusion. Et c'est ainsi conclut Ésope que la familiarité rend les choses même les plus effrayantes assez inaccessibles. Alors quand on est effrayé d'un lion, personnellement, il vaut mieux qu'il reste en cage pour moi. Même pas, j'irai en safari prendre une photo vis-à-vis d'un lion, un renard à la rigueur. Je peux prendre une photo d'un renard, il ne me fait pas peur. Il est déjà plus petit que moi, hein, il est très mignon, pour moi en tout cas je considère un renard comme un chien, que s'il me mord, là, j'aurai peut-être la rage, mais en attendant, vous savez, certaines choses peuvent devenir familières. Alors je voudrais juste mettre un petit bémol à cette histoire de familiarité. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un mari et une femme qui s'aiment et qui s'aiment de plus en plus et qui au fur et à mesure des années ont une certaine familiarité entre eux, qui commencent tellement à se connaître que le simple fait de se regarder dans les yeux, je sais ce que mon mari veut, je sais ce que ma femme veut. Ça s'appelle de la familiarité, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'on mépriserait le fait que deux amis qui s'apprécient et qui savent exactement ce que l'un l'autre pense par rapport à certaines situations. Alors, bien sûr que je veux bien faire attention à cet aspect de la familiarité, mais je voudrais juste dire quelque chose que j'ai trouvé dans un livre. La familiarité engendre le mépris uniquement à l'égard des choses méprisables ou parmi les êtres méprisables. En attendant, le Seigneur n'était pas méprisable. Le Seigneur était quelqu'un comme tout le monde. Il vivait comme tout le monde. Il n'était pas plus haut des autres. Il vivait d'un simple métier. C'était le métier de charpentier. Mais cette nation l'a vraiment méprisé. Et surtout la ville de Nazareth, là où c'est qu'il vivait, eh bien, il a vraiment été méprisé de la part de ces personnes. Alors, bien sûr que, est-ce qu'un frère, une sœur peut avoir ce mépris comme ces personnes avaient du mépris vis-à-vis du Seigneur? J'ai regardé un petit peu dans la Bible comment on pourrait agir par rapport à l'incrédulité. Et j'ai regardé trois exemples qui se trouvent dans la parole de Dieu. Tout d'abord, le premier exemple se trouve dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, c'est un livre assez passionnant dans la Bible, mais il vous montre que parfois, le péché peut avoir une influence sur les personnes. Et nous ne sommes pas mieux que ces personnes qui vivaient dans le livre de la Genèse. Je voudrais vous lire le chapitre 19. C'est l'histoire de la destruction de Sodome et de Gomorre. Vous savez que l'histoire de Sodome et de Gomorre, à un moment donné, Dieu dans sa grâce, est allé avertir deux personnages. Enfin, un personnage, et ce personnage a emporté avec lui son épouse. Et ce personnage s'appelle Lot. Et Dieu l'a interpellé, c'est-à-dire, parle de cette ville parce que dans quelques jours, je vais la détruire. Et regardez ce que Lot fit avant de partir de cette ville. Verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Vous avez bien compris? Lot sortit de la ville en parlant à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Je me dis, mais voilà des hommes et des femmes qui se sont habitués, pardonnez-moi, mais à vivre dans le péché. À un tel point qui était plus manipulé, non pas par les avertissements que l'autre étaient en train de leur dire, mais qui ont été manipulés à un moment donné par leur péché. Eh bien, à un tel point où, au lieu de croire Lot, des avertissements que Dieu lui avait donnés, eh bien, ils ont préféré rester dans la ville, et vous connaissez le texte, la ville a été détruite complètement. Moi, la question que je me pose souvent, vous savez, nos collègues de travail qui plaisantent parfois avec nous, nos amis, nos voisins, je me dis, mais jusqu'à quel point Dieu va permettre à telle ou telle personne que nous connaissons une grâce? Jusqu'à quel point Jésus va dire à ces personnes, écoute, je t'ai visité déjà 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois, j'ai manifesté la grâce dans ta vie, tu n'as pas pu m'écouter, maintenant c'est la destruction pour toi. Voyez-vous, Dieu agit vraiment avec bonté vis-à-vis de l'humanité. Mais ne nous étonnons pas que parfois le Seigneur permet la destruction. Moi je suis, bien sûr que ça m'attriste de voir certaines situations vécues en Italie, dans les autres pays parfois, des destructions qui font rage, n'est-ce pas? Mais je me dis, mais l'humanité parfois, quand le cœur est endurci, et c'était le cas pour Israël, le cœur était vraiment endurci. Et notre nation a le cœur vraiment endurci. Et je me dis, mais le Seigneur permet parfois certaines situations, et je me dis, mais ils ont eu peut-être l'appel, ils ont peut-être entendu parler de Jésus, mais ils ont refusé le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont plaisanté au lieu de prendre l'avertissement au sérieux. Deuxième situation, toujours dans l'Ancien Testament, le livre des Nombres. Le livre des Nombres, le chapitre 13. C'est l'histoire de 12 espions. Vous connaissez ces 12 espions? J'aime beaucoup ces 12 espions. Parce qu'en réalité, vous en avez 2 qui croient et 10 incrédules. 2 qui vont dire on a vu des choses merveilleuses, on est revenu avec des grappes de raisins, elles étaient énormes. C'est vrai qu'il y a des géants dans ce pays, mais c'est la terre promise, nous devons y aller dans cette terre promise. Elle est à nous, elle nous appartient, Dieu nous l'a donnée. Et vous avez dans le texte, eh bien, les voix qui vont se lever plus que les autres. Et je me dis, voilà, peut-être pour nous, en tant que chrétiens, parfois, qui avons un cœur incrédule, qui avons un cœur qui doute parfois, eh bien, cela doit nous rappeler que parfois, on ne doit pas écouter la foule. On ne doit pas écouter le monde, on ne doit pas écouter les voix de l'extérieur, on doit écouter le Seigneur Jésus-Christ. Et Josué et Caleb ont écouté Dieu, parce qu'ils savaient que cette terre leur appartenait, elle était à eux, et ils voulaient la prendre au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils voulaient prendre cette terre promise. Les 12 espions ont refusé de rentrer dans la terre promise parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, au lieu de regarder à Dieu, ils ont regardé aux géants. Ils ont regardé à l'apparence. Et Dieu leur a dit, mais faites-moi confiance, cette terre promise vous appartient. Alors voilà ce que le texte dit. Caleb, verset 30 du chapitre 13. Caleb fut taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Formidable! Moi je ne sais pas si quelqu'un vient vous dire un jour, mais est-ce que tu as prié, on peut être vainqueur dans la prière? Viens avec nous de prière. Viens avec nous de prière. Tu seras vainqueur dans tes prières. Parce que prier ensemble unit. Prier ensemble fortifie. Prier ensemble nous donne des victoires dans le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, Caleb fait taire les murmures, mais malgré ça, les gens vont crier plus fort. Chapitre 14. Chapitre 14, les versets 36 et les versets 37, qui dit ceci. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui, contre l'assemblée en décriant au pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. C'est pas triste ça? C'est pas triste ça? C'est-à-dire d'aller voir, goûter la bonté de Dieu, de voir la grandeur de Dieu, de dire ce pays vous appartient, il est à vous, je vous le donne. Au lieu de cela, au lieu d'être encouragé, au lieu de partir en plus que vainqueur, eh bien, ils ont préféré murmurer, mettre la défaite dans le cœur de cette nation. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces hommes sont morts, sauf Josué et Caleb. Mais la Bible nous dit aussi que les conséquences de leur refus étaient 40 années dans le désert. Voyez-vous, quand on désobéit à Dieu, c'est-à-dire que quand Dieu nous donne, est prêt à nous donner quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire de nous donner, allez, entre nous, la terre promise. Mais qu'est-ce que c'est pour vous la terre promise? Est-ce que c'est de changer de région? Est-ce que vous pensez que les Fidji est la terre promise? Est-ce que vous pensez que la Martinique est la terre promise? Est-ce que vous pensez que Haïti est la terre promise? Certains, vous savez, voient cela dans leur esprit, mais moi je me dis, mais vous savez, la terre promise pour moi, elle se trouve ici. Parce que je sais que Dieu a un plan pour moi ici, dans cette région de France. Dieu veut me rendre plus que vainqueur dans cette région de France. Dieu veut me bénir, Dieu veut me donner la joie, la paix dans cette région de France. Est-ce que ça ne veut pas dire que dans le fond de mon cœur, je n'ai pas encore un petit peu mon cœur dans le sud de la France? Bien sûr que oui. Mais ma terre promise aujourd'hui est à Marolles-sur-Seine. Elle n'est pas ailleurs. Ma terre promise aujourd'hui, elle est ici. Et je veux rendre le Seigneur gloire, la chose qui lui est due dans cette terre que le Seigneur m'a placée. Troisième exemple. Et je vais terminer là. On va dans le livre de Job. Vous l'aimez ce livre? Pour l'avoir médité, moi je ne voudrais pas être à la place des amis de Job. Hein. Vous savez, il y a des gens qui lui ressemblent, hein, parfois. Vous avez des personnages, vous savez, qui pensent connaître toute chose de Dieu. Il y a des gens qui pensent tout connaître de Dieu, c'est-à-dire ils ont une telle connaissance que je me dis à la rigueur, ils ont lu trop de livres à un moment donné, ou ils ont été frappés par le virus de l'intelligence. Mais l'intelligence les a complètement éloignés de Dieu. Certains pensent qu'ils sont vraiment intelligents, c'est-à-dire parce qu'ils ont une certaine connaissance, moi j'ai l'impression qu'ils ont été frappés par le virus de la connaissance. Ils en ont de trop. Ils en ont trop reçu. Alors, Dieu n'a pas agi avec grâce avec tout le monde, c'est sûr. Moi, il m'a juste donné ce qu'il fallait pour la connaissance que j'avais. Mais là, ses amis sont venus voir Job. Moi, ses amis, vous savez, ils ne rentrent pas chez moi. Ils restent à la porte. Hein. Ils restent dehors. Il vaut mieux pas qu'ils se déplacent. Hein. Il vaut mieux pas qu'ils viennent me voir si je suis dans la souffrance. Parce que l'Éternel va leur dire tout simplement, au chapitre 42, verset 7, « Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théma, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes dieux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Ils n'ont pas parlé de Dieu avec droiture. Est-ce que l'incrédulité peut nous atteindre? Moi, c'est une question que je voudrais vous poser. Est-ce qu'on parle droitement de Dieu? Est-ce que notre discours, il est clair quand on parle de Jésus-Christ? Est-ce que c'est clair ce que nous disons quand nous parlons de Jésus? Est-ce que nous sommes bien dans nos baskets? quand on dit qu'on est des chrétiens. Voyez-vous, bien souvent, il y a des gens qui peuvent s'approcher de nous. Ils pensent nous encourager, ils pensent nous dire certaines choses, mais en réalité, ce sont des blablabla. Du blablabla. Des gens qui pensent avoir une certaine connaissance, mais qui nous éloignent complètement de Dieu. C'est simplement du blablabla. Et les amis de Job avaient déjà inventé le blablabla. C'est pas le blablacar. Quoique, d'après ce que je sais, quand vous montez dans ces voitures, il y a du blablabla. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça le blabla. Parce que dans ces voitures, ça discute dur. Et on peut faire des connaissances intéressantes. D'autres vont nous sortir une fois que nous sommes arrivés à destination. Oui, le Seigneur ne nous demande pas de faire du blablabla. Mais le Seigneur nous demande d'être au clair dans nos baskets. Et d'être droit dans nos baskets. D'avoir une droiture quand on parle de Dieu. D'être au clair avec le péché. D'être au clair avec le monde. D'être au clair dans la sentence que Dieu dit. Dieu a averti cette nation. Dieu a averti plusieurs fois cette nation. Cette nation est restée incrédule. Est-ce de ma faute? C'est leur problème. C'est pas le mien. Est-ce ma faute si les gens aujourd'hui ne veulent pas croire? C'est leur problème. C'est pas le mien. Mais ma responsabilité, c'est de leur faire croire que Jésus-Christ est le Sauveur. Quelle est la réaction face à l'incrédulité? Je terminerai là-dessus. Jésus parcourait les villes d'alentour en enseignant. C'est la fin du verset 6. C'est-à-dire que Jésus ne se préoccupait pas de toutes ces personnes qui ne croyaient pas en lui. Il savait qu'il y avait d'autres champs ailleurs et qu'il y aurait la possibilité que d'autres personnes viennent au Seigneur Jésus-Christ. À un tel point, je ne vais pas aborder ce sujet parce que le temps est passé déjà, mais à partir du verset 7, Jésus va appeler les 12 apôtres, il va leur demander de partir deux par deux et il va les envoyer. Voyez-vous, si votre voisin est incrédule, passez à un autre voisin. Je vous le dis franchement, si votre voisin est incrédule, passez à un autre voisin. Allez voir quelqu'un d'autre. Laissez-le. C'est son problème s'il refuse Jésus-Christ. Si votre enfant ne veut pas entendre parler de Jésus, laissez-le entre les mains de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne se préoccupe pas de lui. Dieu va s'occuper de lui. À un moment donné, vous savez, nos enfants ont besoin de faire leurs propres expériences. Vos enfants ont besoin de toucher la grâce de Dieu. Vos enfants ont besoin de comprendre, pour aller au ciel, que s'ils ne se repentent pas, ils vont mourir pour l'éternité. Il n'y a que votre enfant qui peut comprendre ce genre de choses. Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez lui dire, c'est dangereux ce que tu fais. S'il ne comprend pas la grâce de Dieu, il va continuer à s'entêter et à vivre comme il a envie de l'entendre. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut changer le cœur. Il n'y a que Jésus-Christ qui vous a changé votre cœur. Soyez honnête. Est-ce que quand il y a quelqu'un qui vous a dit un jour, viens à Jésus, vous savez, moi il m'a fallu plusieurs personnes pour accepter Jésus-Christ. J'ai pas eu besoin d'une seule âme spirituelle, un grand évangéliste qui vient me voir, qui me dise « Tu es un pécheur !» La première fois qu'une personne m'a dit ça, je l'ai regardé, je lui ai dit « Mais toi aussi, tu es un pécheur. » Voyez-vous, il y a des gens qui pensent qu'une seule personne peut sauver une âme. Oui, c'est possible. Et c'est quelque chose qui peut se réaliser, mais il faut que le cœur de cette personne que vous dites cela soit atteint dans son cœur. Il y a des gens, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, vous pouvez leur donner toutes les argumentations que vous voulez, vous pouvez même leur donner toute l'encyclopédie évangélique. Si leur cœur est dur, il restera dur jusqu'à la fin. Et je crois qu'ils ont besoin, certaines personnes, tout simplement de changer leur cœur. D'incrédulité qu'ils ont, eh bien, de croire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, certaines personnes peuvent manifester de l'incrédulité. Et nous avons dans la Bible plusieurs personnes qui ont manifesté de l'incrédulité. Dans le ciel, la plupart des gens que vous allez rencontrer, ce sont des personnes qui ont manifesté de l'incrédulité, mais qui ont dit à un moment donné, viens au secours, viens à mon secours, Seigneur, par rapport à cette incrédulité. Deux exemples. Pierre, quand il s'est enfoncé, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Voyez-vous, le Seigneur a toujours les mêmes réponses. Et à chaque fois que vous passerez dans l'incrédulité dans votre vie, le Seigneur a toujours la même réponse. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Vous avez beau vous travailler l'esprit, Seigneur, donne-moi une autre réponse que cela. Homme de peu de foi, femme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est la seule remède à l'incrédulité. Thomas, quand il est venu voir Jésus, il a dit, si je ne vois, je ne crois point. Si je ne vois, je ne crois pas. Mais combien de gens aujourd'hui disent, si Jésus ne se manifeste pas dans ma vie, je ne crois pas en lui. Si je ne gagne pas au loto, moi je ne crois pas en lui. Si. Et ils vont mettre tout le temps du si. Et voilà la réponse de Thomas quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et je crois que parfois on a besoin d'entendre cela. Arrêtez d'être incrédule, mais croyez. Vous voulez être plus que vainqueur, arrêtez d'être incrédule et croyez au Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de rechercher le verset que j'ai lu au début. Et je terminerai cela ce matin par ce verset. Hébreux chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelques-uns parmi vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Alors prenons garde dans nos vies. Vous avez entendu cet avertissement. Que le Seigneur vous bénisse avec cet avertissement durant cette semaine, pour que nous puissions bien sûr nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ et que notre foi soit une foi de plus que vainqueur. Amen.